Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde, retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à Mar-a-Lago en Floride. C'est l'une de ces résidences que Donald Trump a ordonné des frappes contre l'armée syrienne. Khan Cheikhoun, village martyr du nord de la Syrie, attaqué au gaz, ce qui a justifié justement la riposte américaine. Moscou, capitale d'un État qui soutient Bachar al-Assad, et puis Saint-Pétersbourg, un petit peu plus au nord, Saint-Pétersbourg, victime d'un attentat lundi. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Pierre Servent qui nous accompagne. Bonjour Pierre.
Bonjour Fabrice.
Spécialiste des questions de défense et qui a fait paraître il y a quelques semaines les présidents et la guerre 1958-2017, les présidents de la Ve République. Jean-Dominique Merchet, bonjour.
Bonjour.
Journaliste dans le quotidien L'Opinion et qui anime son blog Secret Défense. Alors c'est évidemment, et je vous en parlais il y a quelques secondes, l'événement fondamental de la semaine, les frappes américaines contre l'armée syrienne après le gazage d'un village du nord du pays. Donald Trump, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi.
Ce soir, j'ai ordonné des frappes militaires sur l'aéroport d'où est partie l'attaque chimique. Ces frappes sont dans l'intérêt vital de la sécurité nationale des États-Unis.
Oui, Donald Trump depuis la Floride, hein, frappes qui sont intervenues en plein dîner donc avec le président Xi Jinping, alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies discutait toujours bien difficilement donc et bien une nouvelle fois 48 heures après le gazage d'un village du nord de la Syrie, Khan Cheikhoun, hein, les images des victimes, des enfants notamment. Elles sont épouvantables, vous les avez probablement vues. Hein. Il y a eu un petit peu moins de 100 morts. On va revenir évidemment sur ce qui s'est passé dans le nord de la Syrie. Mais vu des États-Unis quand même, ce qui s'est passé donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Donald Trump, il avait menacé de passer à l'acte. Il l'a fait. C'est le retour de l'Amérique. Tiens, Pierre Servent.
Oui, c'est le retour de l'Amérique. Et puis en tout cas, pour Donald Trump, pour moi, c'est un peu la première fois où il prend une déposition verbale très ferme. Hein. C'est ce qu'il a fait il y a tout de suite après l'attaque. Et l'adéquation avec les actes, avec ces frappes, s'est faite immédiatement. Donc ça, c'est un peu nouveau parce que depuis le début de la présidence, on a le sentiment que Donald Trump fonctionne un peu avec ce que les méridionaux appellent les paroles verbales. On dit un certain nombre de choses et puis derrière, la réalité faisait que ça n'accouchait pas. Là, on a vraiment une cohérence entre les deux choses et c'est un événement majeur avec une opération militaire à très fort contenu diplomatique, c'est-à-dire c'est une opération militaire qui est très maîtrisée, qui est très ciblée, qui est très construite et d'une certaine façon qui nous renvoie effectivement à 2013. J'avais fait partie, nous étions pas très nombreux à l'époque observateurs à défendre l'idée qu'il fallait frapper en 2013, une époque où il n'y avait pas d'armée russe
dans, sur place,
il y avait Tartous, il y avait du matériel russe qui était acheminé, mais il n'y avait pas cette présence massive, il n'y avait pas Daesh non
oui,
plus,
non.
Et donc j'avais été très critique vis-à-vis de la présidence Obama, donc là je crois que c'est un événement important, même si évidemment, derrière, de deux choses l'une, où ça accélère un processus encore plus chaotique, où ça réouvre véritablement des portes de négociation, parce qu'enfin, il y a quelqu'un qui dit face à Poutine, face à l'Iran, et face à Bachar, même si Bachar, je pense, le clan alaouite est dans une posture psychologique très, très, très particulière, je ne suis pas certain qu'il puisse comprendre véritablement toutes les subtilités diplomatiques d'une frappe militaire, mais là, on est quand même face à un changement de pied, un changement de donne, avec effectivement ce Donald Trump, maintenant chef de guerre, véritablement pour la première fois, même s'il avait déjà frappé des opérations au Yémen.
Au Yémen notamment, oui. Trump, c'était au milieu de semaine, qui avait évoqué un affront à l'humanité, donc à propos de cette attaque contre ce village. Et c'est vrai, vous avez rappelé la fameuse ligne rouge Barack Obama en 2013, et puis finalement plus rien. Jean-Dominique Merchet, les États-Unis vont être davantage écoutés, davantage respectés. Ils vont revenir finalement sur le devant de la scène. Ils avaient un petit peu disparu ces derniers mois, ces dernières années.
Écoutez, on ne sait pas. Oui, clairement, là, c'est la nuit où il y a eu les bombardements. On voit bien qu'il y a une mise en scène de tout ça. Est-ce que ça va permettre de déboucher sur des rapports, des évolutions concrètes sur le terrain? Clairement, les États-Unis, pas plus que quiconque, ne peuvent régler les problèmes de la Syrie et du Moyen-Orient. Donc, de toute façon, soit les États-Unis rentrent dans un processus de discussion sur une base forte avec après ce qui s'est passé, avec les Russes, avec les Turcs, avec les Iraniens éventuellement. Et à partir de ce moment-là, on peut imaginer qu'il y a une sorte d'alignement des planètes entre tout le monde qui se disent « bon, il faut qu'on trouve une solution ». Là, c'est positif. Il se peut aussi que ce soit un pas de plus vers le chaos régional. Ouais, au fond, ouais, il est vraiment trop tôt pour le savoir.
Quand vous parlez de mise en scène, qu'est-ce que vous voulez dire par là dans l'action, dans la notion de mise en scène ?
Alors, ce que font les Américains dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est comme le disait Pierre Servant, ils visent une base aérienne, ouais, la base aérienne d'où les avions qui ont attaqué le village sont partis. Mais avant de le faire, ils prennent toutes les précautions, ouais, notamment ils prennent les précautions de prévenir les Russes, ouais, leur dire écoutez les gars, on va tirer là. Donc les Russes sont pas très contents, mais ils laissent faire, ouais, même si après ils protestent pour la forme. Et surtout, ils ne commettent absolument rien d'irréparable, c'est-à-dire que d'après les bilans qui ont circulé, il y aurait eu 5 ou 6 morts sur cette base, en gros des gars qui étaient dans les hangars. Ils ont visé des zones techniques, ils n'ont pas visé des casernements par exemple, parce que très clairement, ils savent où dorment les gens qui sont
bien
sur
entendu,
la base,
et
ils savent
entendu,
où dorment.
D'accord.
Donc ils ont tapé les zones techniques, ils ont cassé du matériel, ils ont sans doute détruit la base, voilà, mais ils ont pas tué grand monde. Donc on est dans une posture,
posture
où on dit
d'accord,
voilà, on frappe, mais on ne rentre pas dans quelque chose d'irréparable ou
pas. Je comprends. Tout de même, Pierre Servant, changement de stratégie ou pas pour les États-Unis, à nouveau gendarme du monde face à l'impuissance des Nations Unies, puis quelque part aussi c'est non pas un clin d'œil, mais c'est un avertissement aussi envoyé à la Corée du Nord, à l'Iran, à tous ceux qui éventuellement s'agitent en ce moment.
Oui, tout à fait. Ouais. Moi je considère que c'est vraiment un changement
ils sont là, voilà,
très important.
Ils sont là.
Alors c'est un peu contradictoire, c'est même très contradictoire avec la campagne de Trump, son rapprochement avec Poutine, le fait qu'il voulait s'opposer aux Iraniens en oubliant que les Russes et les Iraniens étaient alliés sur le même terrain. Et puis cette idée aussi que Bachar el-Assad, finalement, il fallait faire avec. Donc là, on a quand même un changement de paysage. Et moi, j'avais été frappé après la chute d'Alep du discours ambiant un peu général qui consistait à dire il faut faire de la réelle politique. Donc Bachar est là, il faut l'associer, etc. Qu'est-ce qu'on constate depuis ? C'est que le processus diplomatique ne débouche aucunement.
Les rencontres de Genève,
Astana non plus, c'est-à-dire ceux qui étaient sous obédience, je dirais, russe, contrôle russe, monitoring russe, ne fonctionne pas. Et moi, ça ne m'étonne pas du tout. Il n'y a pas de processus diplomatique possible, à mon sens, avec Bachar. C'est pas une espèce de lubie contre Bachar.
Je comprends.
C'est un criminel de guerre. Ouais, vous ne faites pas la libération. Je me demande si c'est pas Jean-Dominique Mercher qui avait utilisé cette image. Vous faites pas la libération avec Pétain, la milice, et en disant voilà, on va
ça se mettre autour d'une table, ça va être sympa.
Et c'est pas qu'une question morale.
Non,
c'est une question de faisabilité politique. Donc là, le changement de donne est intéressant. Pourquoi ? Parce que les Russes commencent à en avoir un peu ras-le-bol de Bachar el-Assad. Ouais. Parce que les Russes ont une main d'enfer en ce moment. Ils arrivent au-delà même de leur capacité à comment dirais-je, avoir une surface personnelle, donner le sentiment qu'ils sont au carrefour de tout. Et là, cette frappe-là vient mettre à bas tout ce système russe. Et donc, il y a des tensions très très fortes.
Oui, on va revenir justement sur la position de la Russie, mais simplement aussi la position américaine. Est-ce qu'elle est extrêmement claire ? Est-ce qu'il n'y a pas encore un petit peu de flou concernant Bachar el-Assad ? On en avait parlé d'ailleurs la semaine dernière, je crois qu'il y avait Jean-François Daguzan notamment qui était avec nous, il y avait Jean-Christophe Ploquin de la Croix, au moment où on apprenait que le départ de Bachar el-Assad n'était plus la priorité des États-Unis. Et puis je dis, que dit M. Tillerson, donc le chef de la diplomatie américaine ? Eh bien voilà, il faut donc eh bien que Bachar el-Assad s'en aille. Jean-Dominique Mercher.
Oui, dans l'idéal, il faudrait que Bachar el-Assad s'en aille. Voilà. Mais je pense que tout le monde en est convaincu. Même les Russes en sont convaincus. Les Russes, ce qu'ils veulent, c'est maintenir un État syrien, un régime syrien. Ils sont pas mariés à Bachar. Et encore moins maintenant. Parce que, clairement, ce que Bachar a fait en bombardant ce village, c'est un doigt d'honneur aux Russes.
Ouais.
Les Russes sont dans un processus politique de négociation avec l'opposition, et en même temps, ils veulent le désarmement chimique et Bachar leur dit, mais allez vous faire voir. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Donc, on voudrait, mais est-ce que c'est possible?
Ouais, ouais.
Est-ce que c'est possible de se débarrasser de Bachar? Alors, est-ce que je peux ça fait 6 ans oui, qu'on essaie et personne n'y arrive.
Non, c'est très intéressant ce que dit Jean-Dominique, parce que si on regarde de près les choses, c'est que le risque derrière, c'est qu'il y ait des tensions aussi entre les Iraniens et les Russes, ouais. Dans la mesure où les Iraniens, eux, ont un projet stratégique, ce fameux croissant chiite qui part du sud Liban, qui passe par les Alaouites de Syrie, qui passe par l'Irak majoritairement chiite et qui va jusqu'à l'Iran, qui est bien sûr chiite. Et donc, Bachar lui peut se dire, les Iraniens, les chiites ne me lâcheront jamais. Et les Russes, eux, sont dans des perspectives différentes. C'est-à-dire que Poutine, je l'ai souvent dit, c'est un joueur d'échecs. Alors, il joue aux échecs comme un joueur de poker menteur, ce qui fait que ça complique un peu. Mais il n'est pas complètement fou. Il a vraiment, Jean-Dominique a raison de le rappeler, il a des intérêts stratégiques, il a une vision. Là, il avait une main d'enfer. Et donc, je pense que c'est là où les Américains ont plutôt bien joué, parce qu'ils créent la zizanie chez l'ennemi, entre guillemets, chez l'adversaire en tout cas, et ça fragilise Poutine, d'autant plus que, Jean-Dominique Mercier l'a rappelé, Poutine était le parrain du désarmement chimique de 2013, qui avait été une affaire diplomatique russe remarquable, les Russes. Là, on voyait le joueur d'échecs face à Obama qui jouait aux dames, où la diplomatie russe est passée exactement dans les interstices pour récupérer. Et là, c'est Poutine qui se prend une claque en pleine figure, surtout que même s'ils ont tenté de dire, mais non, c'est pas l'aviation syrienne, enfin, tous ces trucs-là qu'on connaissait en 2013, là, franchement, ça tient pas la route 30 secondes, donc il est coincé. Donc, bien joué l'administration Trump, on en reparlera certainement tout à l'heure pour voir comment Trump a réorganisé, enfin, on dirait qu'il se réorganise tout le temps, mais c'est intéressant de voir si c'est aussi le résultat d'un réalignement au sein des structures de conseil et de commandement autour de Trump, mais il y a vraiment, pour moi, c'est la première ouverture que je vois depuis bien longtemps.
C'est aussi une occasion de se rabibocher pour Trump avec les plus durs du Congrès, parmi les républicains, du Congrès américain.
Ça, c'est pas forcément bon signe. Et d'ailleurs, regardez la réaction de la France et de l'Allemagne, réaction conjointe, qui n'ont paradoxalement, il faut le remarquer, ni condamné ni approuvé ces frappes. Elles les ont constatées. Elles ont dit, voilà, il y a eu ça, et en rappelant que les choses doivent se faire dans le cadre des Nations Unies. Or là, nous ne sommes pas dans un cadre des nations.
C'était légal ou pas? Parce que là, apparemment, il a mis en jeu, l'intérêt vital des États-Unis au nom peut-être de la prolifération des armes chimiques.
Bref, la Syrie est un État souverain. Ouais. La moitié des pays européens continuent à avoir des chargés d'affaires à Damas. Ouais. Enfin bref, non. Quand vous frappez un État souverain sans mandat des Nations Unies, c'est en termes de droit international, vous n'êtes pas dans la légalité. Bon, mais peu importe. Donc on a là effectivement le retour à une forme d'unilatéralisme qu'on a pu connaître dans les années Bush, qui ont conduit à un certain nombre de catastrophes, à la grande catastrophe
de l'Irak, du Moyen-Orient,
et Daesh
bien sûr,
et toute cette affaire. Et donc effectivement, on voit bien que en Europe, notamment le cœur, les Français et les Allemands disent c'était pas mal. De toute façon, il fallait faire quelque chose. On va pas pleurer. Mais en même temps, il faut aller dans le cadre des Nations Unies. Et là, si on voit les Américains s'éloigner du cadre des Nations Unies, ça va reposer un vrai problème.
L'erreur de George W. Bush, on revient aussi sur l'erreur d'Obama que citait tout à l'heure Pierre Servent. Barack Obama qui n'avait pas agi donc à l'époque, en 2013, alors qu'il y avait déjà eu la ligne rouge franchie avec une attaque, 1400 morts près de Damas, attaque au gaz chimique. C'est vraiment la tâche sur le bilan de Barack Obama. C'est de là, tout est parti, l'été 2013, tout le chaos, Pierre Servent.
Pas tout le chaos, parce que le chaos existait déjà avant 2013, mais je l'ai dit, je l'ai écrit, ça pour moi était un tournant raté et qui était majeur. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les plans de frappe qui avaient été arrêtés par les Français, les Américains et les Britanniques, en riposte à l'utilisation du chimique, visaient des bases comme celle qui a été frappée, c'est-à-dire un certain nombre d'implantations en lien avec le chimique. Mais on sait aujourd'hui qu'il y avait des plans secrets de frappe. Ces plans secrets de frappe visaient les forces d'Al-Nostra, c'est-à-dire Al-Qaïda. Pas Daesh, puisque Daesh n'était pas encore constitué en Syrie à ce moment-là. Et ces frappes secrètes, qui n'étaient pas affichées, mais qui auraient cassé une partie de la colonne vertébrale djihadiste en Syrie, auraient renforcé les groupes de combat rebelles dits modérés, sachant que talent de Bachar... Donc cette affaire-là n'a pas été jouée, et Bachar, depuis, avec un talent absolument diabolique, agitant, construisant, participant à la construction de la menace de Daesh, du djihadisme, djihadistes sont parvenus à dissocier le clan des Occidentaux, enfin à inhiber ceux qui voulaient intervenir. On est aujourd'hui à 600 000 morts, une situation absolument chaotique.
600, et avec 600 000
pardonnez-moi.
300 000, 320 000.
300 000, excusez-moi. Déjà, oui, pardonnez-moi. Oui, vous avez raison. Non, c'est déjà absolument atroce. Oui. Et alors, quand vous regardez depuis 2013 la prolifération des intervenants, direct sur le terrain ou dans le ciel, c'est hallucinant. Quand on tient au jour le jour, comme le fait certainement Jean-Dominique, les forces en présence, mais en rentrant dans le détail, en allant regarder les groupes de combat turcophones, syriens, qui ont tous des noms de guerre de grands vizirs turcs de l'Empire ottoman, qui sont restés dans l'histoire comme des grands massacreurs. Bon, parce que la Turquie est intervenue directement, mais elle joue aussi sur ce type de relais. Donc, mais vous avez une multitude d'intervenants, sans compter la Turquie, l'Iran, la Russie, Israël qui frappe une dizaine de fois, bon an, mal an, sur les territoires. Donc c'est un, pardonnez ma expression, c'est un merdier inextricable. Et la solution politique ne peut pas bouger, notamment à cause de la psychologie alaouite. Je le dis très souvent. Les alaouites, c'est une secte chiite méprisée par le monde musulman depuis la nuit des temps. Vous avez des fatwas qui datent du 18e siècle qui disent à tout bon musulman, tuez un alaouite. Allah vous sera reconnaissant de le faire. Et donc les alaouites sont un peu les intouchables du monde musulman qui sont arrivés au pouvoir par le coup d'État du père de Bachar. Ils ne redonneront jamais le pouvoir. Donc si on ne leur tape pas sur la tête et si les Iraniens, les parrains et les Russes ne leur cassent pas un peu le bras, on n'arrivera pas à sortir par la voie diplomatique qui est la seule. Sinon, je vous ai parlé de 600 000 morts. J'espère que ce n'est pas une anticipation malheureuse d'une émission qu'on va faire dans 2-3 ans.
Oui, malheureusement, oui. L'Iran, la Russie qui ont condamné donc les frappes américaines, approbation par le Royaume-Uni, la Turquie, l'Arabie Saoudite, Israël. Oui, je vois qu'on revienne quand même sur cette attaque, l'attaque de mardi sur cette localité de Ran Cheroun. On est près d'Idlib, on est dans le nord de la Syrie. Ces témoins, c'est Rescapé qui raconte.
En sortant de la maison, mon père a vu un homme allongé par terre, mais dès qu'il s'est approché de lui, il a commencé à trembler. 15 minutes après les 4 frappes aériennes, nous avons accouru sur place. Nous avons vu les gens trembler et des personnes effondrées, prises de convulsions, avec de la mousse sortant de la bouche.
Voilà, les médecins donc ils voient un gaz sarin, un gaz neurotoxique, donc... Damas est derrière, on en est sûr, Pierre Servent, Jean-Dominique Merchet.
Oui, il y a assez peu de doutes. L'explication rocambolesque de le régime syrien qui est reprise par les Russes, qui n'y croient pas un instant, et de dire on a tapé un truc, et dans ce truc,
il y avait des chimiques, et ça ne peut pas
être vrai pour une raison technique, c'est que diffuser du gaz sarin, c'est compliqué. Il faut transformer ce gaz qui est assez, enfin, cette substance qui est assez fragile. D'un usage compliqué, il faut la transformer en aérosol. Et si vous tapez dessus, vous faites tout brûler, vous faites tout exploser, ça ne devient pas un aérosol.
Mais ça ne se diffuse pas dans l'air.
Ça peut vous empoisonner trois gars qui sont autour. Mais ça ne va pas faire un nuage qui va tomber sur les gens. Donc c'est simplement bidon, leur explication. Voilà. Et qui a ça? Vous savez, le chlore ou voir le gaz moutarde sont des trucs qu'on fait relativement simplement et effectivement, les gens de l'opposition peuvent en avoir. Le gaz sarin, c'est de la très haute technologie quand même.
La Syrie, donc, 6 ans de guerre, et Pierre Servent rappelait donc ce bilan terrible, plus de 300 000 morts, 320 000 morts, des millions de déplacés. On va pas oublier quand même les combats contre Daesh, avec cette question, et vous y consacriez un grand papier dans l'Opinion cette semaine, Jean-Dominique Merchet. Quand aura lieu donc la bataille contre Raqqa, la capitale entre guillemets donc de Daesh dans le nord de la Syrie. Vous évoquiez donc la deuxième quinzaine du mois, d'avril.
La planification américaine, c'est ça. La planification américaine, c'est les combats au sol dans la ville de Raqqa. Enfin, la début avec ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes, qui sont en fait les Kurdes plus quelques Arabes autour, fin avril. En gros, entre les deux tours de la présidentielle française.
Et après le référendum turc.
Et après, surtout, le référendum turc du 16 avril. Mais, parce que la guerre, c'est pas forcément qu'une affaire de planification, il se passe des choses sur le terrain, les choses se passent pas aussi bien que prévu autour dans la bataille du barrage de Tabqa. Et ils doivent prendre le barrage de Tabqa. Oh, c'est dans la région.
Dans la région,
autour. Ça fait partie de l'encerclement de Raqqa. Il y a ce barrage de Tabqa. Les combats sont un peu plus durs que prévu dans ce secteur. Il y a aucun doute sur l'issue de l'affaire. Aucun doute. Mais ce qui était prévu fin avril sera peut-être décalé de quelques semaines, comme d'ailleurs ce qu'on voit à Mossoul, où on a toujours dit que ce serait rapide et que c'est un peu plus long que prévu, mais néanmoins, ça va être réglé.
Ça va être plus compliqué que Mossoul, Raqqa, la bataille, Pierre Servant. Et d'ailleurs, alors, qui va mener cette bataille aussi, hein,
voilà. Alors, est-ce que ça va être plus compliqué? Mossoul, c'est compliqué. Alors, effectivement, ça se déroule bien. Enfin, ouais. plus long que prévu, mais c'est pas du tout anormal. Et ça prouve que les différentes forces irakiennes, la coalition, l'appui des Français, des Américains, etc., tout ça se passe bien, même s'il y a eu des pertes civiles récemment. Vraiment, cette conquête de Mossoul qui est là dans la vieille ville, donc c'est très très compliqué. Un officier français me résumait la dernière partie de la bataille de Mossoul en disant c'est le bocage normand plus la casbah d'Alger. Ouais. Bon, dans un premier temps c'était des parties très compartimentées, et après vous rentrez dans des vieilles ruelles. Voilà. Sur Raqqa, ce que les spécialistes disent, alors il y a ce que disait Jean-Dominique Mercher, c'est-à-dire qu'il faut arriver effectivement à un encerclement de la zone. La difficulté, c'est que dans la zone de Raqqa, il y a beaucoup de canaux d'irrigation, et que ces canaux d'irrigation permettent de mettre des barrages d'explosifs. Ça peut être aussi des lieux de pénétration souterraine pour arriver à sortir dans le dos des troupes. Donc là, il y a toute une difficulté. Et je voudrais dire, le travail tout à fait remarquable que fait notamment la direction du renseignement militaire française, avec des systèmes de modélisation à partir de renseignements pour véritablement avoir une cartographie 3D extrêmement précise du terrain. Alors, il n'y a pas que les Français, mais notamment les Français. Voilà. Donc il faut que tout ce travail de préparation soit fait pour passer véritablement à la phase active. Et Trump, à mon avis, il a engagé très fortement. Il a doublé les effectifs américains. Et pour lui, à mon avis, compte tenu de ce qui s'est passé sur la frappe il y a quelques jours, il est dans cette posture de guerre. Le problème, c'est qu'il faudra qu'il fasse attention à ne pas prendre trop de goût à l'hubris, à la démesure du chef de guerre et de l'adrénaline que donne ce poste-là. C'est ce que j'explique notamment dans mon livre sur les présidents et la guerre, où là, vous avez des personnages qui arrivent parfois neufs à la présidence et qui, tout d'un coup, découvrent la beauté de la puissance militaire et l'excitation que ça peut provoquer.
Un mot encore très très court, hein, parce que dans un instant, on va s'intéresser à la visite de Xi Jinping aux États-Unis et que peut-être relégué, je ne sais pas, au second plan en raison des frappes en Syrie. Steve Bannon, le conseiller ultranationaliste de Trump, viré du Conseil de sécurité nationale. Pourquoi ? Qui me dit un mot ? Vraiment quelques secondes.
Mais c'est une très bonne nouvelle.
Jean-Dominique Mercher.
C'est une très bonne nouvelle, parce que mettre un idéologue réactionnaire dans cet endroit où, en principe, il se décide des choses extrêmement sérieuses pour l'avenir du monde, qu'on le sorte, c'est bien. Voilà. Donc, ouf.
Ouf. D'autant plus qu'ils ont remis comme membre permanent deux personnages centraux, oui. Le chef d'état-major des armées américaines, oui. Et le coordinateur des 17 ou 19 oui. agences de renseignement américains qui avaient été sortis comme membre permanent. Oui. Donc vous aviez un idéologue quand même
bas du front
et les vrais professionnels. Ouais. Il faut rappeler d'ailleurs que dans le Conseil de sécurité nationale, nos amis américains font des choses très intéressantes, ils y mettent aussi des universitaires. Oh. Vous avez des journalistes, des gens qui viennent de l'extérieur.
Vous pourriez figurer, Pierre. Voilà. parallèlement, juste un mot là aussi, hein. Il faut noter la montée en puissance de Jared Kushner, hein, le gendre de Donald Trump, mari d'Ivanka Trump, donc la fille aînée, émissaire discret auprès de gouvernements étrangers. Il est apparu publiquement lundi en Irak avec des responsables irakiens. C'est un peu le ministre bis des affaires étrangères.
Oui, manifestement, il joue un rôle important, ce qui est là, mais surtout un rôle de modération. Et ce n'était pas prévu, parce que on le voyait comme un pro-israélien fanatique, comme un... Voilà. Et manifestement, il arrive avec son épouse, qui est la fille du président, ils arrivent à calmer le président, ce qui est une bonne chose aussi.
Bon, à suivre, 7 jours dans le monde, on continue avec Pierre Servant, avec Jean-Dominique Mercher, donc la Corée du Nord qui continue ses tirs de missiles, et puis Saint-Pétersbourg, victime d'un attentat lundi dans le métro. A tout de suite sur BFM Business, à la télé et à la radio.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Oui, retour sur l'actu internationale de la semaine sur BFM Business, à la télé, à la radio, toujours avec Pierre Servant, spécialiste des questions de défense, qui vous propose les présidents et la guerre 1958-2017, hein, comment les présidents de la République française ont géré toutes les questions de défense. J'ai pas l'impression qu'on en parle énormément dans la campagne électorale.
Non, et c'est absolument sidérant parce que les premiers dossiers lourds que le prochain président, la prochaine présidente aura sur son bureau en arrivant à l'Élysée, c'est toutes ces questions. Des grands rendez-vous internationaux, la Syrie, le Sahel, un soldat français, un sapeur vient de tomber. Et c'est vrai que ça chauffe. On parle beaucoup de Daesh, on oublie Al-Qaïda, mais Al-Qaïda continue à agir.
Enfin,
voilà. Donc là, c'est vraiment l'absurdité française que de se concentrer sur des sujets qui sont certes importants, alors que nous sommes quand même théoriquement en guerre en France et au plus loin. Donc évidemment, je m'en désole.
Bon, Jean-Louis Merchet est avec nous également, animateur du blog Secret Défense, aussi un passionné des affaires militaires qu'il suit dans le quotidien L'Opinion. Alors, les frappes américaines jeudi soir contre la Syrie, menées en pleine visite de Xi Jinping en Floride, en plein dîner, donc, depuis la résidence de Mar-a-Lago, donc. D'ailleurs, la Chine appelait à éviter toute détérioration tout en condamnant l'usage d'armes chimiques. Alors, cette visite, justement, oui, l'autre premier gros test diplomatique pour Trump, avec la Syrie, bien sûr. Trump qui n'avait pas ménagé ses critiques contre un pays accusé de manipuler sa monnaie, de se réarmer. Est-ce que l'un et l'autre avaient des risques à prendre pendant cette visite historique en Floride, hein, s'imposer quelque part, exister sur leur scène intérieure et sur la scène mondiale, Jean-Dominique Merchet ?
Il y a deux gros dossiers entre la Chine et les États-Unis. Il y a le commerce international,
bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a la peur de la Chine, comme de l'Allemagne, comme d'autres, d'un protectionnisme américain.
Juste. Voilà. La Chine qui pratique aussi un protectionnisme,
la Chine,
avec des tarifs douaniers quand même élevés.
Donc, il y a les relations commerciales, économiques entre les pays. Et il y a la Corée du Nord.
Ah oui, on va en reparler.
Il y a la Corée du Nord, où on voit un président, un régime qui, là, ne se dote pas d'armes chimiques de résiduelles, mais est en train de se doter d'un vrai programme nucléaire, avec de vrais missiles stratégiques pour lancer des bombes nucléaires sur toute la zone. Or, la zone, c'est la Corée du Sud, le Japon, la Russie, avec cette grande ville de Vladivostok. Il ne faut jamais oublier que la Russie est voisine de la Corée du Nord.
Vladivostok, c'est à 40 km à peu près de la Corée du Nord.
Et la Chine, qui sont des voisins. Plus les États-Unis avec Hawaï ou la côte ouest. Voilà. Donc, et là, on est dans un univers où on a des États-nations structurés. Ça ressemble beaucoup plus à l'Europe de 1914 que le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, c'est le chaos, c'est n'importe quoi. Ça. Là, on a des vraies puissances qui ont des vraies armées et qui sont réellement dans une situation où demain, ils peuvent passer à la guerre. Et donc là, il y a un vrai, vrai, vrai dossier.
Pour faire encore un peu plus peur par rapport à ce qui vient d'être dit, et qui est déjà tout à fait précis, un détail et deux points supplémentaires de dossier. Effectivement, les Américains ont été amenés à déployer des missiles, antimissiles balistiques en Corée du Sud. Les Chinois détestent cela, comme les Russes détestaient les systèmes que l'administration Bush voulait mettre
dans
en
l'Est
Europe,
de l'Europe,
Tchéquie, Pologne, etc.
Roumanie, etc.
Justement pour avoir une capacité d'ailleurs d'interception des missiles coréens, balistiques, etc. Mais deux dossiers supplémentaires qui posent problème. Un qui est de nature politique et psychologique. Il faut lire les écrits de Xi Jinping, alors pas en chinois, mais en anglais ou en français. Et le premier, le numéro un chinois, partage avec le premier russe et le premier turc l'idée que les maux du monde depuis plusieurs décennies viennent des États-Unis. La corruption des mœurs, l'hyperconsommation, la pornographie, les mariages homosexuels, pour Poutine, l'effondrement des valeurs chrétiennes, pour Xi Jinping, les grandes valeurs maoïstes qui restaurent, etc. Donc il y a vraiment une opposition idéologique à ce que représentent les Américains. Et le personnage de Trump, dans ce paysage-là, il est pas, je dirais, entouré d'odeurs de vertu. Après, vous avez un autre dossier, là qui n'est pas philosophique et très militaire, c'est la mer de Chine méridionale. Où il y a des frictions permanentes. Et il y avait encore, il y a quelques semaines, des tensions autour d'un drone sous-marin, donc un bâtiment sous-marin sans pilote qui avait été capturé par la marine chinoise.
Officiellement, un navire océanographique pour aller sonder le...
Et j'ai eu l'occasion déjà de dire ici que la Chine, depuis des années,
coule... C'est un outil matériel militaire.
Coule des antiquités américains. Chinoises de 4000 ans avant Jésus-Christ en mer de Chine, lance après des campagnes archéologiques 3 ans après, et disent, vous voyez bien,
ces zones
nous appartiennent. Et vous avez des accrochages réguliers entre les avions américains Poséidon qui surveille la zone et qui récuse les prétentions chinoises à tel ou tel type de maîtrise de l'espace aérien, et les systèmes de défense, de batterie, de missiles sur ces îlots qui ont été poldérisés, et ça arrive régulièrement. Ce qui fait que l'affaire syrienne, dont on parlait tout à l'heure, c'est pas neutre pour le premier chinois dans ce paysage-là.
Oui, et d'ailleurs, c'est même le président philippin qui, en fin de semaine dernière, disait, il nous demandait à ses militaires, finalement, d'investir des îlots, des petits îlots, justement, au large des Philippines, convoités, justement, par les Chinois. Je reviens juste sur la Corée du Nord, quand même, parce que Pyongyang a tiré, en début de semaine, son 5e missile depuis, donc, le début de l'année. Oui ou non, Pékin a-t-il un levier sur Pyongyang? C'est Donald Trump qui disait, si la Chine ne résout pas le dossier nord-coréen, nous le ferons. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, alors voilà, je ne sais pas ce que ça peut annoncer, mais la Chine, oui ou non, peut-elle lâcher la Corée du Nord? Pierre Servent.
Alors, c'est compliqué. Je me demande si ce n'est pas le même rapport entre la Russie et Bachar el-Assad. Toute chose étant inégale par ailleurs, mais on sait que les Chinois récemment se sont un petit peu énervés à la chinoise par rapport à l'attitude de Pyongyang, et donc ont bloqué une partie des exportations du charbon.
Ils arrêtent d'importer justement du charbon nord-coréen.
Mais en même temps, les services de renseignement laissent entendre que c'est un peu un double jeu. Alors, quelle est véritablement la marge de manœuvre chinoise? C'est difficile à savoir, sachant que une des hantises de la Chine, ce serait évidemment une guerre qui se déclencherait, sachant que notamment par rapport à la balance militaire américaine, la Chine est dans un rapport de 1 à 6 de mémoire, à peu près, je pense, et que par ailleurs, la grande hantise de la Chine, c'est d'avoir une réunification de la Corée qui mettrait en contact direct sa frontière avec une zone qui serait sous influence américaine.
Voilà. Bien sûr.
Alors, mais en même temps, pour l'instant, on ne voit aucun effet de la posture de Pékin sur la multiplication des missiles balistiques susceptibles de porter l'arme nucléaire du côté de la Corée du Nord.
Jean-Dominique Merchel, opinion.
Oui, je crois qu'effectivement, les grandes puissances ne sont plus aussi puissantes qu'on ne le pense. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que les Chinois, les Américains, les Russes peuvent régler les affaires du monde. On peut le regretter, mais on est sorti de cette époque. Je pense que les acteurs comme la Corée du Nord, comme la Turquie, comme le Japon, comme la Corée du Sud, comme tous ces pays, sont des acteurs autonomes. Et ils font ce qu'ils veulent, en fait. Alors, on peut faire pression, on peut essayer de les convaincre, on peut essayer de les contenir, mais pas tant que ça, en fait. Et donc, il y a un désordre mondial qui s'est mis en place. Et quand il n'y a pas de structure multilatérale, régionale ou internationale, pour contrôler tout ça et faire quand même que, au final, les gens se retrouvent autour de la table et se parlent, eh bien, ça part dans tous les sens, comme vous le dites. Donc, effectivement, c'est un problème. Il ne faut pas croire que parce que les Chinois aimeraient contrôler ce qui se passe en Corée du Nord, ils vont y arriver. D'une certaine manière, c'est sûr que la Chine tient l'économie de la Corée du Nord. Mais en même temps, elle est un peu piégée parce qu'elle peut pas faire que ce régime tombe. Ils sont obligés de supporter les folies de leurs voisins.
Alors, les tensions autour de la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran aussi. On ne doit pas oublier, évidemment, le terrorisme qui continue de frapper. On évoquait Vladivostok, mais à l'autre bout du pays, parce que c'est un très très grand pays avec 9 ou 10 fuseaux horaires, la Russie, il y a Saint-Pétersbourg. Lundi, en début d'après-midi, une bombe qui explose dans le métro. Une petite quinzaine de morts. Vladimir Poutine.
Je voudrais adresser mes condoléances aux familles des victimes et des blessés. J'ai déjà parlé avec les chefs des services spéciaux, le directeur des services de renseignement. Tous les services sont au travail.
Attentat kamikaze, causé apparemment par un homme de 22 ans, né au Kirghizistan, on est en Asie centrale, bien sûr. La Russie, elle n'avait pas été autant touchée depuis l'attentat de l'État islamique qui avait visé il y a 2 ans à peu près un avion de ligne entre l'Égypte et la Russie. La Russie, évidemment, dans la cible des islamistes, Pierre Servent, encore plus depuis évidemment l'intervention en Syrie.
Oui, vraiment. D'autant plus que il y a des fatwas d'Arabie Saoudite qui ont été déclenchés contre la Russie parce que un certain nombre d'avions de combat russes, quand ils décollent en Syrie, sont bénis par des popes. Et donc vous avez ça a renforcé cette dimension de l'ancienne guerre d'Afghanistan contre l'Union soviétique à la grande époque. Là, quelques enseignements de cette frappe. D'abord, le kamikaze s'est fait sauter entre deux rames, ce qui fait qu'il sait parfaitement que c'est
entre
à ce moment-là entre deux stations, et il sait parfaitement que c'est à ce moment-là que l'effet est maximal pour la charge dès lors qu'elle est confinée. Et puis il y avait une deuxième charge plus importante. Apparemment, ça serait le même. Et là, on aurait pu avoir peut-être deux ou trois fois plus de morts. Donc c'est une menace nouvelle parce que c'est pas Ingouchie, Tchétchénie,
non, c'est pas le Caucase.
Voilà, ce sont les stans, les anciens stans musulmans de l'Union soviétique. Donc c'est un nouveau type de menace et ça correspond à ce qu'on voit maintenant en Europe et ailleurs, à savoir une personne qui se déclenche certainement en lien. Alors il n'y a pas eu de revendication de Daesh, mais voilà. Et c'est ce risque-là pour les décennies qui viennent d'avoir cette espèce de bruit de fond d'autres sujets plus lourds, tous ceux qu'on a évoqués, mais d'avoir un peu ce bruit de fond de terrorisme comme ça qui se succède et qui est évidemment problématique. Et alors pour la Russie de Poutine, c'est un affront, et le risque pour un personnage comme Poutine, c'est justement de passer encore à la vitesse supérieure, sachant que je crois qu'il est soumis à élection l'année prochaine,
refaire un petit
coup de nationalisme, on ira les chercher dans les chiottes pour reprendre sa formule contre les Tchétchènes, et ça rajoute à tout le climat qu'on vient de décrire. Et je partage vraiment le point de vue de Jean-Luc Mercher. Ça a un sacré parfum d'avant 14 sur ce jeu de puissance et d'affaiblissement à l'intérieur.
Que vous décriviez très bien dans Extension du domaine de la guerre, votre avant-dernier, antépénultième opus, mon cher Pierre Servant. La Russie qui fournit un important contingent à l'État islamique, 4000 selon Vladimir Poutine, venus du Caucase, bien sûr, principalement, plus autant quasiment venus des républiques de l'ex-URSS d'Asie centrale, le Kyrgyzstan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Turkménistan. Hein. Vladimir Poutine qui réunissait donc à Moscou les chefs des services de renseignement de ces pays. C'est un cauchemar donc, tous ces islamistes qui viennent de l'ex-URSS, Jean-Dominique Mercher.
Oui, l'Asie centrale, c'est une zone qui n'est pas très bien connue des Français et des Européens en général. Les Russes sont confrontés depuis très longtemps à un problème de terrorisme d'abord nationaliste et puis maintenant djihadiste dans le nord du Caucase, la Tchétchénie, l'Ingouchie, la Daghestan. Ouais. Mais de plus en plus, on voit effectivement apparaître des réseaux ou des individus qui viennent d'Asie centrale, de ces républiques. D'ailleurs, c'est
notamment de cette région d'Osh, qui se trouve dans le sud du Kyrgyzstan, à la frontière ouzbèque, une zone très instable.
Ce sont des pays extrêmement pauvres, ce sont des pays extrêmement autoritaires, il y a très peu de démocratie, sauf au Kyrgyzstan, qui d'ailleurs est sans doute le régime le plus démocratique de la région. Mais ce sont des sociétés qui sont travaillées, traversées par des mouvements islamistes plus ou moins radicaux, qu'on trouve d'ailleurs juste à côté, en Chine, chez les Ouïghours, l'ancien Turkestan
chinois,
le Xinjiang, vous parlez beaucoup mieux chinois que moi, qui est, au fond, c'est exactement à côté. C'est au fond
la sixième
république.
On met des cartes sur BFM Business, si vous suivez à la radio. Voilà.
C'est la sixième république d'Asie centrale, sauf que celle-là, elle n'était pas dans l'Empire russe, elle était dans l'Empire chinois. Et puis, vous avez à côté, parce que c'est aussi la même problématique, l'Afghanistan, qui est toujours dans un chaos politique lié avec la présence, effectivement, non seulement des talibans, mais aussi d'Al-Qaïda. Et maintenant d'État islamique. Donc on voit bien que cette zone du cœur de l'Asie, de l'Eurasie, continue à poser un sérieux problème.
Je vous donne la parole, Pierre Servant. C'est vrai, cette région d'Asie centrale, donc, qui fournit des combattants à l'État islamique, et c'est vrai, il a eu raison de rappeler, cette partie occidentale de la Chine, peuplée de Ouïghours, ce qu'on appelle le Xinjiang, 10 millions d'habitants, principalement musulmans, les extrémistes du Xinjiang qui menacent Pékin d'actions sanglantes, d'attentats. Et pour lutter contre le radicalisme musulman, les autorités chinoises ont pris des mesures assez drastiques, il y a quelques jours, pour limiter les tenues vestimentaires ostentatoires, vous voyez très bien à quoi je fais allusion, et puis voir de limiter la taille de la barbe. Pierre Servant, encore un mot.
Oui, effectivement, j'ai vu ce...
De Jean-Luc Mercher, c'est bon.
Il est passé à la toise tout à l'heure. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, encore une fois, tout ça montre bien que par rapport au sujet qu'on aborde, et c'est là où vraiment votre émission, c'est très agréable d'y participer, parce qu'on essaye de mettre les pièces de puzzle qui se touchent les uns les autres. Daesh est en perte de vitesse en Syrie et en Irak. Mais Daesh a métastasé dans d'autres zones et dans d'autres pays. Et ce qui est intéressant, je l'avais mis en valeur dans un de mes livres, c'est que vous avez à travers le monde certains mouvements irrédentistes, certains mouvements qui étaient, disons, nationalistes, défendant telle ou telle province, qui se sont radicalisés. radicaliser Daesh. C'est-à-dire qu'ils ont changé de vocabulaire. Là où ils dénonçaient un pouvoir central capitaliste ou je sais pas quoi ça, c'est devenu des mécréants. Et donc, là aussi, je pense que c'est ce phénomène, on va l'avoir pour très longtemps, cette forme de daeshisation, si je puis dire, ou de radicalisation islamique, y compris à travers des mouvements politiques qui n'étaient pas du tout religieux au départ.
Pierre Servan, qu'on va retrouver dans un instant, avec Jean-Dominique Merchet, toujours les questions de terrorisme. Est-ce le retour des djihadistes dans le Sahel, de nouvelles actions meurtrières? Un soldat français a été tué. A tout de suite, 7 jours dans le monde sur BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Pendant encore quelques minutes avec Pierre Servan, avec Jean-Dominique Merchet, deux grands spécialistes des questions de défense. On évoquait il y a quelques instants les dossiers terroristes avec notamment l'Asie centrale, l'attentat de Saint-Pétersbourg. Oui, le terrorisme islamiste qui frappe toujours en Afrique. On ne va pas l'oublier. Un soldat français du génie d'Angers tué mercredi dans des combats dans le sud du Mali. On n'est pas très loin de la frontière avec le Burkina Faso. Victime d'un accrochage avec des terroristes. Dixit François Hollande.
Nous leur portons des coups très rudes, et l'intervention au Mali a été regardée comme un succès, même si elle n'est pas terminée, car nous avons toujours à chasser ces éléments qui viennent parfois de Libye pour attaquer le Mali.
Opérations qui ne sont toujours pas terminées, disait le président de la République, donc en apprenant la mort de ce soldat qui participait à l'opération Barkhane. Oui, on l'avait peut-être un petit peu oublié à cause de la Syrie, bien sûr. 4 ans après le coup d'envoi de l'opération Serval, l'opération française, les opérations militaires, elles sont toujours en cours dans cette région. Alors vous allez me dire si oui ou non les djihadistes sont de retour. On a l'impression qu'il y a une recrudescence quand même d'actions meurtrières qui touchent aussi bien les forces françaises que les soldats ou les gendarmes maliens, nigériens, qui prend la parole. Allez, Jean-Dominique Merchet,
oui, du quotidien L'Opinion. Je considère que la situation au Mali se dégrade. Depuis la situation sécuritaire au Mali se dégrade, il y a de plus en plus d'attentats. On voit les groupes, différents groupes radicaux revenir, et par ailleurs, il n'y a pas toujours de solution politique, 4 ans après. Donc on est quand même dans une forme d'impasse stratégique, d'autant que on, au fond, on ne peut pas partir, parce que il y a personne pour prendre notre place, pour dire les choses clairement.
Il y a 4000 soldats engagés dans Barkhane.
On est coincé dans un pays dont la situation se dégrade et dont on ne peut pas partir. Donc c'est pas très bon. Et le prochain président de la République devra se saisir de ce dossier. Les militaires souhaitent rester sur place parce que voilà, c'est un peu leur bébé cette opération. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une sortie facile. Mais au moins, je pense qu'il faut qu'on se pose la question. Comme à l'époque d'Afghanistan, moi je plaidais pour qu'on parte d'Afghanistan, on m'a beaucoup accusé de ne pas être un bon patriote, mais je pense qu'il faut réfléchir aujourd'hui à une porte de sortie de Barkhane. Je ne pense pas que Pierre partagera totalement mon sentiment.
Monsieur Pierre Servan, on vous écoute.
Alors, juste un mot pour saluer la mémoire, moi qui suis officier de réserve du génie, donc je salue la mémoire de ce sapeur qui est tombé, mais comme ceux de ses camarades,
et
je
pense 17 aussi... 17 morts depuis, voilà. Donc, le coup d'envoi de ces opérations, début 2013 au Mali et puis ensuite maintenant dans le Sahel, dans une zone qui est large comme l'Europe, quand même, l'opération Barkhane.
Voilà, il faut penser aux familles, si vous voulez, c'est une famille française touchée, et donc il faut penser à eux, et c'est important, c'est quelque chose qui va peser sur le prochain président de la République, c'est cette responsabilité de la vie et de la mort des soldats qu'on engage, et un président d'une démocratie, pour un président d'une démocratie, ce sont des décisions extrêmement, extrêmement lourdes. Alors, ce que la France fait d'intelligent là-bas, c'est le G5 Sahel, c'est le fait d'avoir fait bouger l'opération Serval qui était concentrée sur le Mali pour travailler en concertation de façon très positive et intelligente et novatrice avec Mauritanie, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso. Et entre parenthèses, ça permet aussi de taper du côté de Boko Haram à travers notamment le Tchad, même si Boko Haram c'est quelque chose, il faudrait faire une émission dessus parce que c'est un mouvement assez compliqué. Mais ce qui est très nouveau et ce que Serval a permis, c'est que les pays de cette zone, en dehors de la Mauritanie qui coopérait avec la France de façon secrète depuis très longtemps pour lutter contre les influences d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les autres pays se méfiaient de la France, ancienne puissance colonisatrice, et voulaient pas afficher de coopération. Après Serval, où ils ont une trouille bleue, ils ont accepté cette coopération, et là donc vous avez un travail mis en commun, notamment du renseignement, qui est extrêmement important. Là où Jean-Dominique Merchet a raison, c'est qu'il y a reconstitution, enfin certaines des métastases se réagrègent, se reconstituent, voilà. Et vous avez des groupes terroristes entre Ansaruddin, des embryons d'Acmi, Mokhtar Belmokhtar, Al-Ghali, qui sont tout ça des chefs de guerre djihadistes, se sont reformés, essayent de se reconstituer. Il y a la MINUSMA, il y a force de l'ONU aussi qui fait du boulot, qui pardonnez ma expression, qui déguste, hein, qui prend des morts, et le rôle de la France est absolument essentiel. Et vous avez le rôle des forces spéciales, que Jean-Demy connaît très bien aussi comme moi, qui font un travail Nord-Mali, Nord-Niger, remarquable, parce que agissant avec des petits groupes de combat extrêmement mobiles et plastiques, ils sont la meilleure réponse à la nature même des groupes terroristes en face, qui ont cette même ubiquité, fluidité, etc. Donc c'est un travail incessant. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un peu le tonneau des Danaïdes. Il faut sans cesse... C'est la caractéristique du cancer djihadiste, et c'est pour ça que nous sommes dans une guerre de 30 ans, c'est que c'est une capacité à muter et à se renouveler sans cesse. Et si vous ne mettez pas la pression là-dessus, comme c'est ce sont des métastases, pardonnez-moi ces images, qui s'attaquent à des parties molles des États, ça vous fait des cancers fulgurants. Donc, c'est pour ça que nous sommes en guerre, au pluriel, européens, français, américains, etc., pour 30 ans. Mais, et quand je dis 30 ans, c'est parce que je ne sais pas si c'est 40 ou 5 ans.
Ouais. Mais ça s'aggrave, parce que quoi, ils recrutent à nouveau, ils retrouvent du matériel.
Jean-Dominique a raison, la solution politique ne sort pas. Ouais, tant qu'il n'y a pas de solution politique, ça continue éternellement.
Si vous prenez le Mali, vous avez deux guerres qui se superposent. Vous avez une guerre contre le terrorisme, que les Français font. Et puis vous avez des problèmes maliens. Vous avez des problèmes entre les gens du Nord, vous avez des problèmes entre les gens du Nord et vous avez aussi des problèmes entre les gens du Nord parce que vous avez des Touaregs de grandes familles et puis vous avez les gens qui étaient soumis à ces gens-là qui ne supportent pas leurs anciens maîtres parce que ce sont des sociétés esclavagistes, n'oublions pas, des sociétés esclavagistes.
C'est bien de le rappeler.
Nos amis du Nord Mali. Et puis vous avez des problèmes avec les éleveurs par rapport aux agriculteurs. Bref, vous avez une complexité sociologique, historique, qui est liée à la nature propre de ces pays. Soit il y a des solutions démocratiques, étatiques, qui émergent et qui pourront déboucher sur quelque chose. Tout ça dans un contexte d'une explosion démographique considérable, avec pas d'économie viable. Donc on a un système où ça nous pète entre les mains, quoi, pour dire les choses. Et alors évidemment, on peut pas partir comme ça, mais il faut quand même trouver des solutions.
Ouais,
trouver
des solutions politiques.
Le tourisme, par exemple, le pays Dogon au Mali qui était très très important, l'Égypte, etc. Le tourisme s'effondrant, la sécheresse augmentant, tous les problèmes qui ont été évoqués socio-économiques, tout ça crée ce terreau. Et c'est pour ça que l'outil militaire est essentiel et fondamental, c'est un outil qui doit être au service d'une politique, de la gouvernance, de l'économie. Absolument. Et c'est un effort colossal, et c'est pour ça que l'Union européenne
est importante. Sur le bureau du futur président.
Voilà, ceux qui pensent que c'est la France toute seule avec ses petits bras musclés, même si j'ai infiniment d'amour pour mon pays, y arrivera, c'est une erreur magistrale.
Pierre Servent, qui nous a accompagnés, spécialiste des questions de défense, et on souligne encore une fois la sortie de Les Présidents et la guerre, 1958-2017, c'est nouveau, donc Les Présidents de la Ve République, alors qu'on est en pleine campagne électorale.
Et c'est un très bon livre.
C'est un très bon livre de Jean-Dominique Merchet, qui a fait une critique dans l'opinion, spécialiste des questions de défense.
C'est un très bon livre.
C'est fini pour 7 jours dans le monde, vivement le week-end prochain.
BFM Business, 7 jours dans le monde.